VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. Une dizaine de soldats burkinabés ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi lors d'une attaque contre un détachement militaire à l'allée dans le nord du Burkina Faso. L'attaque survient au moment où le Burkina observe un deuil national de 2 jours, mercredi et ce jeudi. Après l'attaque d'Arbinda, où 35 civils et 7 militaires ont été tués ainsi que 80 terroristes selon les autorités burkinabées et Bagassi Koura.
La patrouille militaire est tombée dans une embuscade dans le village de Alalé, dans le nord du pays. 7 militaires ont perdu la vie sur le champ, selon des sources sécuritaires. Les premières informations ont fait état de 11 morts. 5 autres militaires ont été blessés. Certains sont portés disparus, selon les mêmes sources qui précisent que l'armée a abattu 5 assaillants. Le Burkina Faso observe un deuil de 48 heures depuis mercredi, après une attaque djihadiste d'envergure qui a fait 42 morts dans le nord du pays. La pire depuis 5 ans. 35 civils, dont 31 femmes, font partie des victimes et 7 militaires, dont 4 soldats et 3 gendarmes, ont été tués dans cette attaque armée non revendiquée menée mardi à Arbinda, près de la frontière malienne. L'état-major des armées burkinabé indique que la riposte a permis de tuer 80 terroristes.
Le président turc Tayyip Recep Erdogan a effectué hier une visite surprise en Tunisie pour discuter d'un éventuel cessez-le-feu en Libye, où Ankara soutient le gouvernement reconnu par la communauté internationale. Le point avec Abdourahman Dia.
Recep Tayyip Erdogan a rencontré pour la première fois le président tunisien Kais Saied, entré en fonction le 23 octobre. Le chef de l'État turc a déclaré avoir évoqué la coopération avec la Tunisie pour aider à un règlement du conflit libyen. « Nous avons discuté des moyens de coopérer pour parvenir à un cessez-le-feu en Libye dans le cadre de la relance du processus politique », a dit le président turc, dont le pays appuie militairement le gouvernement d'union reconnu par l'ONU. L'impact des développements négatifs en Libye ne se limite pas à ce pays, mais touche aussi les pays voisins, en tête desquels la Tunisie, a ajouté Erdogan. La Tunisie partage une longue frontière avec ce pays plongé dans le chaos et accueille des milliers de Libyens depuis la révolte ayant conduit à la chute de Muammar Kadhafi en 2011. La Libye est déchirée entre 2 pouvoirs rivaux, le gouvernement d'union basé à Tripoli et dans l'Est un pouvoir incarné par le général Khalifa Haftar qui a lancé en début avril une offensive pour conquérir la capitale. Celui-ci est soutenu par l'Arabie Saoudite, l'Égypte et les Émirats Arabes Unis, des pays avec lesquels la Turquie entretient des relations parfois tendues.
Au Congo-Brazzaville, les autorités ont lancé mardi la réponse humanitaire en faveur de quelques 180 000 victimes des inondations dans les régions nord du pays. La cargaison qui a quitté le port fluvial de Brazzaville transporte des médicaments, des vivres et autres fournitures. Notre correspondant sur place à Saint-Séverin nous en dit plus.
260 tonnes de vivres et non-vivres ont marqué mardi du port de Brazzaville. C'est le cadeau de Noël pour les 180 000 victimes des inondations dans le nord du pays. Il s'agit d'une centaine de cartons de médicaments de première nécessité, les savons, les nattes ou les seaux. On remarque également sur la barge qui a quitté le quai de la sardine, du riz, de l'huile et du sel. La ministre en charge de l'action humanitaire, Antoinette Dinganjodo, a assisté au départ du bateau dans le voyage, supervisé par son directeur de cabinet, pourrait durer 1 mois.
Et là-dedans, nous avons 260 tonnes de vivres et non-vivres, plus des médicaments pour chaque localité. Et pour avoir ces vivres et non-vivres, c'était pas facile. Les fournisseurs n'avaient pas toutes les quantités. Il a fallu faire venir de Pointe-Noire. Les équipes qui partent sont constituées des gens formés, civils et militaires. La Croix-Rouge va nous aider et les équipes vont travailler main dans la main. Là, c'est le bateau qui part. À partir de cet après-midi, nous commençons à charger les camions qui vont partir par la route.
Le gouvernement qui avait lancé un appel à l'aide à la communauté internationale a pu réunir sous fonds propres 400 millions de francs CFA pour organiser cette première réponse humanitaire. Elle va viser 30 ménages dans 21 districts des plateaux, de la Cuvette et surtout de la Likwala où on compte le plus des victimes des inondations. Fidèle Dimou, le ministre des Transports, était également au port fluvial de Brazzaville. ville.
Et surtout en cette période de crue, c'est le moment idéal pour que les bateaux puissent naviguer en toute sécurité de Brazzaville jusqu'à Bangui via les localités riveraines du Congo.
Le transport de cette aide humanitaire est assuré par la société Socotraf. Son directeur Alphonse Kani prévoit des endroits de dure navigabilité.
Quand nous rentrons dans les affluents, c'est une navigation un peu périodique à tel point que un bateau comme celui-ci ne peut pas naviguer. Donc il y a des petites unités qui peuvent prendre le relais. Mais le fleuve en lui-même, il est navigable. Donc on a essayé d'armer le bateau pour qu'il puisse atteindre Betou sans problème.
L'aide du gouvernement va s'ajouter à ce que font déjà les organisations internationales comme le PAM et le ICR, permettant ainsi à ces sinistrés de passer d'heureuses fêtes de fin d'année. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Les membres du Likoud de Benjamin Netanyahou ont commencé à voter aujourd'hui pour désigner leur nouveau chef de file dans le cadre d'une primaire réclamée par le principal rival du premier ministre israélien, Gideon Saar, déterminé à lui ravir le parti. Quelques 116 000 membres du Likoud sont appelés à voter aujourd'hui en Israël jusqu'à 21h GMT dans plus de 100 bureaux de vote. Les résultats du scrutin ne devraient pas être dévoilés avant demain, vendredi matin. Dans son message de Noël hier à la Cité du Vatican, le pape François a appelé à la paix et à la réconciliation dans le monde. Le souverain pontife a aussi dénoncé les agissements des groupes extrémistes sur le continent africain. Jacques Aristide résume ce discours, lui et Orbi.
C'est un pape souriant qui est apparu sur le balcon du palais pontifical pour prononcer son 7e discours du 25 décembre devant quelques 55 000 fidèles réunis sur la place Saint-Pierre de Rome. Un message de Noël en forme de tour d'horizon d'une humanité blessée, dit-il, sur tous les continents, dont l'Afrique.
Sia pace per la popolazione.
Que le Seigneur apporte la paix à ceux qui vivent dans l'Est de la République démocratique du Congo, déchirés par des conflits incessants. Qu'il apporte consolation à ceux qui souffrent de la violence, des catastrophes naturelles ou des maladies. Et qu'il apporte du réconfort à ceux qui sont persécutés pour leur foi religieuse, spécialement les missionnaires et les fidèles qui ont été enlevés et aux victimes d'attaques de groupes extrémistes, particulièrement au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Nigeria.
Le pape argentin, qui vient de fêter ses 83 ans et qui a fait du soutien des migrants l'une des priorités de son pontificat, n'a pas manqué de critiquer les murs d'indifférence qui se dressent sur leur chemin. Dans l'espérance d'une vie sûre, ils finissent par subir des abus innommables, l'esclavage de toutes sortes et des tortures dans des camps de détention inhumains, dit-il. Et dans un message de Noël commun diffusé par le Vatican, le pape François et l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, ont en outre encouragé la reprise des difficiles pourparlers de paix sud-soudanais au lendemain de l'annonce de leur ajournement à début janvier.
En France, le gouvernement a fixé au 7 janvier la reprise des négociations avec les syndicats sur son projet de réforme des retraites, contre lequel la contestation se poursuit. Dans le collimateur des manifestants et des grévistes, la réforme du système des retraites voulue par Emmanuel Macron, qui prévoit le remplacement des 42 régimes existants par un système universel par points, un changement perçu par ses détracteurs comme la porte ouverte à une précarisation des retraités. Le principal opposant au Kremlin, Alexei Navalny, a été arrêté aujourd'hui après de nouvelles perquisitions menées dans les locaux de son organisation anticorruption. Alexei a été interpellé par la force et emmené. Il n'a pas résisté à indiquer sur Twitter sa porte-parole, Kira Yarmich. Peu avant, l'opposant avait diffusé une vidéo montrant la porte de son organisation, le Fonds de lutte contre la corruption, aide forcée à la perceuse et à la scie électrique. Des manifestants bloquent aujourd'hui routes et ponts à Bagdad et dans le sud de l'Irak, brûlant des pneus pour marquer leur colère contre les dirigeants qui négocient toujours la nomination d'un homme du Sérail pour remplacer le premier ministre démissionnaire. À Nasiriya, les manifestants ont une nouvelle fois brûlé le siège du gouvernorat, déjà visé par un incendie depuis le début de la révolte il y a près de 3 mois. Et puis, les marines chinoises, russes et iraniennes doivent entamer demain vendredi des manœuvres militaires conjointes dans le golfe d'Oman, a annoncé jeudi Pékin. Cet exercice qui se déroulera du 27 au 30 décembre intervient dans un contexte de tension entre l'Iran et les États-Unis après le retrait unilatéral de Washington en 2018 de l'accord international sur le nucléaire iranien. Fin de ce journal, le prochain dans 50 minutes avec Henri
Portier. Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.